Bonjour à toutes, bonjour à tous, Régis Fellu pour Radio Vague, pour notre chronique d'histoire locale. La semaine dernière, je vous ai proposé différents récits sur le thème de la Première Guerre mondiale, avec des recherches que j'ai entreprises sur ma commune de Chevilly en 2016, avec une exposition et puis un livre qu'on a publié en 2018. Je vais vous raconter à nouveau quelques récits sur différents thèmes et je vais d'abord vous expliquer ce qui nous a amené à faire ces différentes recherches sur les poilus de la commune de Chevilly. Ceux de 14 à Chevilly, ce sont d'abord 1500 habitants qui ont vécu heureux jusqu'en 1914. Ceux de 14 à Chevilly, ce sont ensuite 350 hommes qui se sont battus jusqu'en 1918. Et ceux de 14 à Chevilly, ce sont enfin 70 héros morts pour la France qu'on honore encore aujourd'hui. Ce sont ces trois chiffres qui ont constitué le point de départ de nos recherches. Trop souvent, en effet, quand on veut parler de la Première Guerre mondiale en lien avec un village, on se base sur l'incontournable monument aux morts de la commune. Ensuite, on continue les recherches sur Internet avec la base de données Mémoire des hommes, qui liste tous les soldats morts pour la France. Et si on s'arrête là, évidemment, c'est une erreur historique, car les poilus tués au combat n'ont pas été les seuls héros de cette guerre. Leurs compagnons d'armes, qui leur ont survécu pendant plus de 4 années parfois, ont eu également un parcours tout aussi exemplaire, et les années qui ont suivi le conflit n'en ont pas moins été difficiles pour eux. Et que dire de leurs parents, épouses ou enfants, qui les ont attendus au village pendant ces 52 mois, et qui peuvent tout autant être honorés un siècle plus tard? L'objectif de nos recherches, ça a donc été de rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont vécu cette époque tragique. Essayons donc de comprendre comment les habitants du village ont vécu ces événements. Et ceux qui partaient au front, est-ce qu'ils savaient vraiment pourquoi et pour qui ils allaient se battre? Ils s'appelaient Auguste, Jules ou Émile. Ils avaient 20 ans, 28 ans, bien plus pour certains. Ils étaient souvent agriculteurs, parfois artisans ou commerçants. Autant de jeunes hommes qui, le 1er août 1914, étaient allés rejoindre leur caserne, laissant à leurs femmes le soin de terminer la moisson, en leur jurant qu'ils seraient revenus pour Noël. Ils avaient bien entendu au café du village que l'Autriche avait envahi la Serbie, mais ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi on leur faisait prendre les armes. Prisonniers, disparus, blessés, malades, ils se sont tous battus pour leur patrie. Nous avons une dette envers eux, et à ce titre, nous devons leur rendre honneur. Avec les quelques récits qui suivent, nous allons donc tenter d'aller à leur rencontre et étudier le parcours qu'ils ont eu. Je vais d'abord vous parler de l'organisation de l'armée française en 1914, parce que c'est important de savoir comment ça se passait à l'époque. Donc déjà le système de conscription. Un appelé a été incorporé à la fin de sa 21e année. Et il effectue à ce moment-là 3 années de service militaire actif, donc de 20 à 23 ans. Ensuite, il quitte l'armée d'active et il est renvoyé donc à la vie civile, mais il reste réserviste, c'est-à-dire qu'il est soumis à plusieurs périodes d'exercice et il peut être mobilisé à tout moment en cas de guerre. Notre jeune soldat, tout juste libéré, va alors passer donc 11 années dans la réserve, donc de 23 à 34 ans. Et à l'issue de cette période de réserviste, le jeune homme passe dans l'armée territoriale. C'est l'armée qui doit assurer la défense intérieure du pays. On peut la comparer à l'ancienne garde nationale. Celui qu'on appelle maintenant un pépère, c'était l'appellation à l'époque, il va alors passer 7 années dans l'armée territoriale, de 34 à 41 ans. Et puis ensuite, les territoriaux passent dans la réserve de l'armée territoriale, qui regroupe des hommes trop âgés pour entrer en campagne. Souvent, ils étaient plusieurs fois pères de famille. Et donc, ils vont garder les voies de chemin de fer, les gares, les bâtiments publics, et assurer l'ordre dans les grandes villes. Ces hommes, qui ne touchent parfois que des parties d'uniforme, képi, brassard, ceinture, et des armes d'une autre guerre, vont effectuer 7 années dans la réserve de l'armée territoriale, donc de 41 à 48 ans. Donc en résumé, s'il est reconnu apte au service à 20 ans, notre jeune Français à l'époque reste soumis aux obligations militaires durant 28 années. Il est ensuite libéré définitivement à l'âge de presque 50 ans. Dans les années qui précèdent la guerre, 60% des hommes d'une classe d'âge sont incorporés, 10% sont ajournés et le reste est exempté ou réformé. L'immense majorité des appelés est affectée dans l'infanterie, et c'est là que les pertes seront les plus importantes, les fantassins étant à l'avant du front avec les artilleurs à l'arrière des tranchées. Alors à propos du service militaire en France, il faut que je vous parle de tirage au sort et d'exemption. Parce que le service militaire, tel qu'on l'a connu il y a encore peu de temps, eh bien il datait de la Révolution française. Et oui, parce que c'est en 1798 que la conscription a été rendue obligatoire, permettant ainsi à Napoléon d'alimenter ses armées jusqu'en 1815. Cependant, un système de tirage au sort a longtemps existé, chaque région étant seulement tenue de mobiliser un certain quota d'hommes. Les familles bourgeoises pouvaient ainsi négocier une somme, devant notaire, pour payer un remplaçant qui effectuait son service à la place de leur fils. Ce système de remplacement allait ensuite être remplacé par un système d'exonération où on versait une compensation financière non pas à une famille, mais à l'État. Par ailleurs, les hommes pouvaient être réformés sur des critères physiques ou exemptés selon leur situation familiale. C'est une loi de 1905 qui a supprimé ces tirages au sort et exemptions en rétablissant un principe d'égalité de tous devant le service militaire. Plus récemment, ce service militaire allait devenir service national en 1965, avant que le système de conscription ne soit abandonné par Jacques Chirac en 2002. Ensuite, la professionnalisation des armées s'est aussi accompagnée d'un parcours citoyen pour les jeunes hommes et femmes à partir de 16 ans. Alors, l'organisation de l'armée française à l'époque, au printemps 1914, au début de la guerre, ça représente 880 000 hommes dans l'armée d'active, répartis dans différentes armes, l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et les régiments du génie. À l'époque, le territoire français est divisé en 21 régions militaires qui correspondent chacune à un corps d'armée. Voici la hiérarchie des différentes unités. En haut de la pyramide, on a chaque corps d'armée qui est commandé par un général de corps d'armée divisé en deux divisions. Chaque division, 16 000 hommes, est commandée par un général de division et est divisée en deux brigades. Chaque brigade, 6 800 hommes, est commandée par un général de brigade et divisée en deux régiments. Chaque régiment, 3 400 hommes, est commandé par un colonel et divisé en trois bataillons. Chaque bataillon, 1 100 hommes, commandé par un commandant, est divisé en quatre compagnies. Chaque compagnie, 240 hommes, est commandée par un capitaine et divisée en trois bataillons. Chaque section, 60 hommes, est commandée par un lieutenant et divisée en deux demi-sections. Chaque demi-section, 30 hommes, est commandée par un sergent et divisée en deux escouades. Dernière donc division, chaque escouade, 10 hommes, est commandée par un caporal et composée des soldats de première et deuxième classe. On va parler maintenant de notre ville d'Orléans et la vie militaire telle qu'elle était organisée dans le Loiret. Donc Orléans était à l'époque le siège du 5e corps d'armée. On a vu tout à l'heure qu'il y en avait 21 en France, donc Orléans est le siège du 5e corps d'armée. Son quartier général se trouve alors rue de la Bretonnerie et il comprend différentes unités. À commencer par le 30e régiment d'artillerie de campagne, c'était les casernes du quartier Châtillon et quartier Bel Air qui se trouvaient rue Eugène Vignat et aujourd'hui c'est les actuels lycées Potier et Benjamin Franklin. Ensuite, il y avait le 45e régiment d'artillerie de campagne, c'était la caserne du Portail, qui se trouvait entre le boulevard Alexandre-Martin et le quartier de la cathédrale, là où se trouve aujourd'hui la place Almagran et les rues Fernand Rabier et Théophile Chollet, c'est le quartier de l'Élysée. Les batteries d'infanterie qui étaient associées à ce régiment étaient installées à la chapelle Saint-Mémin au petit séminaire, pour ceux qui connaissent. Le 131e régiment d'infanterie ensuite, qui se trouvait Faubourg Bannier, c'est l'actuel quartier Coligny, et son régiment de réserve, donc le 331e. Ensuite, il y avait le 8e régiment de cavalerie, qui était boulevard de Châteaudun, c'est l'actuel quartier de Senlis. Le groupe cycliste de la 7e division de cavalerie, rue du Maréchal Monory. Et puis le 5e corps d'armée était doté également d'installations et d'équipements divers, comme par exemple une section de secrétaire d'état-major et de commis et ouvriers militaires d'administration. C'était la caserne Jeanne d'Arc, et aujourd'hui c'est Place Saint-Charles, la caisse d'allocation familiale au sud d'Orléans. Il y avait aussi une unité de manutention militaire qui était boulevard Rocheplate. Aujourd'hui, c'est le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain. Il y avait une école d'artillerie, quai du Fort-à-Laume, le long de la Loire, près du continent. Une prison militaire à la place de l'actuel palais des sports. Il y avait aussi un parc à fourrage, rue de Coulmiers, un parc d'artillerie, c'était rue du Parc, d'où son nom. Et puis différents champs de manœuvre, comme les Gros, par exemple, pour l'infanterie, et puis l'Hilarot pour la cavalerie. Avec la guerre, l'armée va également réquisitionner à Orléans de nombreux logements pour le cantonnement de ses hommes. Elle va aussi utiliser des équipements publics, l'ancien cimetière Saint-Vincent, l'actuel parc Pasteur, qui sert à parquer les chevaux, le camp des Tourelles, qui est installé près de l'Hilarot, le Campo Santo qui abrite l'intendance, et des boulangeries de campagne qui utilisent ponctuellement l'émail et le Champ de Mars avant de se rapprocher ensuite des premières lignes. Voilà, je crois que c'était important de rappeler ces quelques détails sur l'organisation de l'armée française à l'époque, sur l'ensemble du territoire et sur la ville d'Orléans, une organisation évidemment qui n'avait rien à voir avec l'armée française d'aujourd'hui. Je vous propose une petite coupure musicale et puis on va retourner sur quelques récits sur les poilus de notre village de Chevilly et l'impact qu'a pu avoir la guerre à l'époque sur la vie au village. À tout de suite.